accompagnons les voyageurs de bien vouloir descendre. Merci.
À vous peut-être de l'autre côté, derrière votre récepteur, et nous ailleurs, au pied de l'émetteur, entendez ce qui fait battre son cœur.
Vous êtes bien sur Erdiwa. Bienvenue dans Embarquement immédiat.
Salut.
Salut Vincent.
Ouais, salut Ismo. Alors, ça y est, nous voilà à nouveau dans notre 107.5 à destination d'un endroit sans doute pour l'instant encore inconnu.
Absolument. Le train vient à peine de partir. On les a entendus. Voilà, on est dans le train avec nos deux voyageurs.
Oui.
Parce qu'ils sont deux aujourd'hui.
Oui, cette fois-ci, ils sont venus tous les deux. Alors, mais qui êtes-vous ? L'un et l'autre ? Peut-être. Comment c'est ton prénom ?
Célia.
Célia. Et toi ?
Quentin.
Quentin. Ben, bonjour Célia et Quentin.
Bonjour.
Les rencontres dans le train sont toujours un peu magiques en fait. Donc,
nous,
on aime bien ce côté-là. On aime bien prendre le train avec des gens qu'on ne connaît pas. Par contre, on connaît la valise qui vous a été... Remise.
Par notre dernier voyageur du mois de juillet.
Comme une bouteille à la mer.
Une bouteille à la mer.
Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans ?
Non.
Ah.
Alors ?
On va le découvrir ensemble.
Est-ce que vous voulez bien ouvrir votre valise ?
Allons.
Ouais. Merci.
Elle s'est un peu cassée.
Elle s'est un peu cassée. C'est une vieille valise. Ben on tentera de la réparer.
Il va falloir qu'on la répare. Ouais. Ah oui. Donc, je vois pas mal d'objets un petit peu éparpillés. Les objets qu'on trouve dans une valise, normalement, en fait, lorsqu'on part en voyage. Hein, des choses qui pourraient être des doudous, des choses qui pourraient être des papiers, des livres, des choses comme ça. Nous, ce qu'on aime bien faire avec les voyageurs, c'est de prendre les objets les uns après les autres, dans l'ordre que vous aimez, dans l'ordre que vous jugez bien, et de nous le décrire surtout, parce qu'en fait, on est dans le train ensemble, mais les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas vraiment les objets, il faut qu'on puisse leur décrire un petit peu.
Eh oui.
Oui, j'aimerais savoir, avant tout, comment vous l'avez... à quel moment vous avez composé cette valise ? Vous étiez... quelles émotions ça a pu provoquer, peut-être ? Comment ça s'est passé entre vous, tous les deux ?
Eh bien, l'un d'entre nous a eu l'idée de la destination.
Ouais.
Et avec... une fois qu'on savait notre destination, on s'est dit, tiens, là, il nous faut... qu'est-ce qu'on va mettre en vue de ça ?
Ouais.
Donc, on l'a rempli comme ça.
Ok. Alors, quel est le premier objet que vous aimeriez décrire à nos micros ?
Lequel ? Ok.
Alors.
C'est pas celui qui nous est venu en premier, mais c'est à moi de le décrire.
Vas-y.
Bon.
Ok. Bah, le premier objet, c'est une peluche. C'est un kangourou tricoté par les sœurs Clarisse de Paray-le-Monial. Donc voilà, il y a une maman kangourou avec un bébé kangourou dedans, tout tricoté en maille.
Il s'appelle Manouchka.
Et il s'appelle Manouchka.
Alors les sœurs Clarisse de Paray-le-Monial.
Ouais.
Alors qui sont ces sœurs?
Et bah, c'est des sœurs d'une communauté de religieuses, donc à Paray-le-Monial, qui est une ville de Bourgogne, qui est la ville où, selon les chrétiens, le Sacré-Cœur de Jésus a été révélé à une sœur qui s'appelle Marguerite Marie. Donc voilà, c'est un endroit où j'ai fait une retraite, en fait. Mmh. Donc voilà, donc les sœurs Clarisse, c'est une branche franciscaine. Elles viennent en fait de la branche créée par une sainte qui s'appelle Clarisse et Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui est un saint un peu connu. Donc voilà, elles sont vraiment dans le délire de la pauvreté, voilà, tout ça. C'est plutôt un ordre assez pauvre. Donc voilà. Qui font des doudous.
Tu fais un doudou. Tu as trouvé ça chouette de prendre un, de ramener un doudou de là-bas.
Ouais, voilà. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que leur travail était très elles, en fait, elles sont très mignonnes. Elles font plein de petits trucs artisanaux comme ça. Mais beaucoup de communautés religieuses font ça. Et ouais, j'ai trouvé ça très mignon ce qu'elles faisaient. Du coup, j'ai ramené.
Et le fait de prendre cette peluche avec toi en voyage, c'est important.
Oui, parce que, alors, du coup, je peux dire pourquoi je l'ai prise, alors ?
Ah bah bien sûr, comme si tu en as envie.
Oui.
Ok, bah ouais, parce qu'en fait, j'attends un bébé, du coup, c'était pour ça que je l'ai prise. C'était pour, en fait, c'était la première peluche de mon bébé.
Ah.
Du coup, et c'est la seule qu'on a pour le moment. Et je suis très contente de commencer avec une seule peluche.
Mais oui, parce qu'elle a une histoire, cette peluche.
Ouais, voilà.
Donc c'est une sorte de continuité, quelque part.
C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que je trouvais ça très sympa d'avoir... j'aimais bien l'idée de transmettre ça... Enfin voilà, c'est une retraite qui avait été assez, assez chouette pour moi. Il s'était passé pas mal de trucs intérieurement. Et dans la continuité de mon intérieur, du coup, c'était, j'aimais bien faire le pont entre ces deux intériorités, la maternité et puis la vie spirituelle. Et voilà, cette peluche, elle symbolise un peu ça, quoi. Wow. Le pont entre ces deux des intériorités. Ouais, ouais, c'est... On est sur des trucs profonds, là.
Ah mais je comprends que tu l'emmènes, hein. Je comprends que tu l'emmènes.
Ouais, et voilà, et puis du coup ouais, c'était la... c'est sa seule peluche pour le moment quoi. Du coup voilà.
Et alors durant cette retraite, alors c'était d'abord peut-être à quelle époque, et puis qu'est-ce que tu as rencontré ou qui as-tu rencontré qu'est-ce qui s'y est passé, comment tu es sortie de ce moment de retraite?
Comment j'y suis sortie alors. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était quand? C'était ce mois de juillet, je pense. C'était une retraite pendant l'été. Non, c'était avant... Oh, je ne sais plus. En printemps ou en été?
Il y a quelques mois.
Et moi, j'y suis ressortie très apaisée. Je suis ressortie de là assez amoureuse, en fait. Assez... avant d'y aller, c'était un moment un peu difficile pour moi. De toute façon, quand on décide de faire une retraite, c'est que souvent, ça ne va pas très bien.
Ah bon?
Et
pas forcément.
Oui, non, pas forcément, c'est vrai. Non, c'est vrai, pas forcément, mais ça peut. Des fois, on est des moments un peu où c'est pas facile, on a besoin d'être un peu éclairé, donc des fois, voilà, c'est la solution qu'on prend, aller faire une retraite. Ouais. Et je suis sortie de là assez confiante, en fait. Je m'étais fait vraiment bien accueillir par ces sœurs, j'ai rencontré des gens très doux, très, très accueillants. Et moi, bah, du coup, cet fameux endroit qui est censé être du coup la révélation du Sacré-Cœur m'a pas mal... Enfin ouais, en tout cas, j'ai eu pas mal l'impression de rencontrer ce fameux cœur que nous considérons comme un cœur divin. Et voilà, après ça, j'étais très, très en paix, en fait, très, très pleine d'amour. Mmh. Très confiante pour l'avenir, en fait. J'avais l'impression d'être un peu...
Une belle histoire de cœur, hein.
Finalement. Ouais.
Pour commencer, c'est pas mal, hein.
Et toi, Quentin, tu as déjà vécu un moment de retraite, quelque part?
Oui, je pense que c'était un mois avant ou deux, et c'était près de Lyon. Je suis allé chez les Jésuites, moi. Donc pareil, une communauté catholique, voilà, qui date du XVIe siècle. C'est différent, ça se passe différemment, mais c'est dans le même esprit.
Et à cet endroit, tu as appris quelque chose qui était essentiel, peut-être?
Oui, j'ai surtout appris beaucoup de choses sur l'oraison, la prière. Voilà, c'est quelque chose de difficile pour moi, et là, j'ai appris un peu à m'y retrouver. On priait beaucoup là-bas. 2h30 par jour, je priais. 4 fois dans la journée.
Donc, apprendre à vivre quelque chose qui est sans doute un peu proche de la méditation.
Tout à fait, oui, c'est proche de la méditation. Mais là-bas, justement, on distinguait la méditation et la contemplation. Il y avait, justement, on apprenait un peu à s'y retrouver. C'est pas pareil que la méditation. Il y a plusieurs sens pour la méditation. Mais oui, en gros, on est assis, on ferme les yeux, ou pas, on lit quelque chose ou pas, mais voilà, pendant un certain temps, assez long.
On peut parler d'une une démarche vers une quête spirituelle personnelle.
Ah bah voilà, oui, carrément, ouais.
Dans vos deux expériences respectives, je pense qu'il...
Ouais. Ouais. Carrément, ouais. Sauf que je dirais la différence avec la méditation, peut-être qu'on entend peut-être bouddhiste ou autre, c'est que c'est pas un exercice de respiration, c'est pas Voilà, c'est vraiment porté vers une rencontre à l'intérieur de quelqu'un, etc. Enfin, il y a vraiment toute une mystique propre au christianisme, je dirais.
Tout ça symbolisé par cette peluche, quand même. Là.
C'est elle qui nous a amené à parler de tout ça, on va dire. Ouais.
Ouais. En tous les cas, et puis on sait alors, bah, grâce à cette peluche, que tous les deux, hein, vous allez être parents. Et c'est sans doute pas rien. Je ne sais pas, vous avez quel âge, pardon, de vous poser cette question.
Moi, j'ai 23 ans.
23 ans.
Et moi, 28.
28. Et voilà, vous allez être parents. Bah, c'est, ouais. J'imagine que c'est... tout plein d'espérance.
Si, c'est pas une...
Tout plein d'espérance.
Tout plein d'espérance.
C'est pas une expérience spirituelle que de devenir parent.
Si, ouais, bah c'est lié, hein, bien sûr.
Bah justement, on parlait de cette rencontre avec ce personnage ce personnage de Jésus là qui a pas mal chamboulé nos vies. Bah là, du coup, ça nous amène à une autre rencontre aussi avec un autre être. Enfin, c'est beaucoup une histoire de rencontre en fait au final du coup. Dans ce parcours. D'ailleurs, les deux retraites, on l'a fait avant notre baptême, en fait, qu'on a eu en avril.
Du coup, d'accord.
Voilà, c'était... En fait, on a eu tout un chemin spirituel, un peu comme ça.
Ouais. Les histoires de rencontres. Hein. C'est pour ça que nous, on aime bien prendre le train.
Moi, j'ai fait avant.
Avec des voyageurs après. Pour la rencontre.
Et c'est ce que j'allais dire. Ouais. Nous aussi, nous nous rencontrons dans ce train. Ouais. Tout à fait.
Est-ce que ça nous amènerait pas à un second objet
Ben, si, carrément. Surtout qu'il y en a qui sont en lien avec ce qu'on a déjà dit.
Alors.
Et eh bien, dedans, il y a un chapelet. Mmh. Et c'est celui-ci.
Ouais.
Et ce chapelet est vieux. Il était à ma grand-mère, qui était catholique. Ouais. Voilà.
Tu peux le décrire ?
Alors, il est comme tous les chapelets, c'est-à-dire qu'il a... Alors, moi, je connais pas exactement les nombres, mais il y a un certain nombre de boules. Mmh. C'est comme un collier, mais trop grand. Et il y a plein de petites boules. Là, elles sont marron. Le fil est blanc. Et au bout du fil, il y a une croix avec Jésus dessus et Marie qui lui tend une coupe.
Donc des perles de bois.
Des perles de bois, oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Et je l'ai hérité de ma grand-mère.
Ça, c'est une histoire de transmission.
C'est ça. Hein,
parce qu'on parlait de la peluche auparavant qui exactement. Deviendrait la première peluche. Donc là, on est dans la transmission.
C'est un peu ce qu'on a pensé.
Et une fois encore, avec ce chapelet, on est aussi dans la transmission.
C'est ça.
Est-ce que tu peux juste, moi je ne connais pas très très bien ces objets, mais symboliquement, est-ce qu'ils représentent quelque chose, ces petites boules, est-ce que ça représente quelque chose, est-ce qu'il y a une façon vraiment de se servir de ce chapelet
Et moi j'allais rajouter, pardon Ismo, finalement à quoi ça sert un chapelet? Presque, si... Voilà.
Bah, je vais commencer, mais je pense que c'est plutôt Célia, l'experte, elle finira. Ouais. Mais ouais, ça sert à quelque chose, on s'en sert d'une manière particulière, ça a une histoire, ça a une histoire... Et chaque boule, c'est justement une prière qu'on connaît, que vous connaissez sûrement, même si vous ne connaissez pas forcément bien le christianisme, vous connaissez sûrement le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et donc chaque boule est un Je vous salue Marie ou un Notre Père, selon. Et en fait, on récite d'affilée les prières. Voilà.
On pourrait faire l'expérience de faire entendre dans quelques instants ce que vous vous dites intérieurement avec ce chapelet. Quelles sont ces prières? Est-ce que tu pourrais en dire une ou deux?
On pourrait, hein, si vous voulez. Après, c'est la prière la plus classique du christianisme. Mais...
Alors, j'aimerais bien l'entendre. Pour entendre peut-être... Parce que j'imagine aussi qu'il y a, dans ces prières, il y a une musique.
Oui. Oui, je trouve aussi. Bah, même avant de me convertir, je trouvais qu'il sonnait bien.
Ouais. Moi,
quand ma grand-mère me l'avait montré.
Alors, est-ce qu'on peut entendre cette musique?
Eh bien, on peut la dire en même temps, sinon.
Ouais,
on dit à Marie.
Ouais, bah, la prière qui va apparaître le plus avec ce chapelet, c'est le « Je vous salue Marie ». C'est ce qui revient tout le temps. Donc,
je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Voilà, donc c'est celle qui revient le plus.
Ouais.
Voilà. Pardon, j'ai une question qui vient. Est-ce que c'est finalement une prière qui peut se dire de tout plein de manières, qui peut se dire aussi en chantant, qui peut se dire...
Oui, c'est une prière qui se chante, c'est une prière qui peut même... Moi, par exemple... on la vouvoie dans la prière classiquement. Moi, j'aime bien la tutoyer. Moi, il y a pas mal de variantes que j'aime bien, en fait. Quand je la prie moi-même, je rajoute des trucs aussi, des fois, entre les phrases, selon ce que je prie, selon le moment de la journée.
C'est une façon, voilà, de personnifier ce moment spirituel.
Ouais, mais je crois que c'est assez important, hein, de personnifier les prières, de rajouter des choses, de changer le sujet. C'est toujours une prière qui s'adresse à Marie, dans tous les cas. Notre Père, ça s'adresse toujours au Père, mais... Ouais, je trouve ça important de s'approprier les prières.
Peut-être un peu comme dans les partitions du Moyen-Âge, où les troubadours, ils avaient les partitions... ils n'avaient pas toutes les notes. Ils avaient les accords, mais la base. Et après, ils improvisaient sur ce thème.
Oui, je crois qu'il n'y avait que 5 notes ou quelque chose comme ça. Et...
Voilà, quelque chose comme ça.
Donc, vous avez la peluche de transmission, le chapelet, peut-être pour avoir des moments de prière lors de votre voyage, peut-être ?
Oui.
Tout à fait.
Et ces moments de prière, est-ce qu'ils sont là aussi, bien sûr, pour bien sûr apaiser toujours et maintenir peut-être dans un état qui est celui que vous recherchez, qui est celui d'être dans de l'espérance, peut-être aller vers quelque chose qui est peut-être un peu de l'ordre du bonheur.
Oui. Bah oui, tout à fait. Je le décrirais moins par un état que par une relation. C'est-à-dire que, comme je suis en relation avec Célia, je ne suis pas forcément dans un état d'apaisement tout le temps avec elle. Des fois, ça va moins bien que d'autres. Mais globalement, je veux garder le cap, en effet, de bonne espérance. Et avec elle, je veux quand même rester avec elle en relation. Et juste le désir de rester quand même ou d'être fidèle, c'est plutôt... Voilà. Peut-être un désir qu'un état, je sais pas trop.
En fait, des fois la prière, c'est pas toujours facile, ça peut être dur, ça peut être sec. On peut aussi beaucoup se retrouver face à soi-même, c'est pas toujours très agréable. Mais il y a une volonté à prier régulièrement, à pas vouloir faire les choses tout seul en tout cas, à vouloir se confier. Il y a beaucoup de prières où on dit on confie quelqu'un à Dieu, on confie un événement, on confie notre vie, on n'a pas envie de la vivre tout seul, on a envie de la vivre avec Dieu en fait. Je pense que c'est ça aussi le but de la prière.
Et ce moment de prière, c'est quelque chose de quotidien ?
Ouais, pour nous, ouais.
Avec, je veux dire, il y a des moments vraiment, vous savez dans la journée qu'un moment, ça va être consacré à la prière, ou ça survient à certains moments, et vous sentez que c'est le moment maintenant ?
Les deux, ça peut être une prière spontanée ou prière aussi plus rythmée. Enfin, mais des fois, on la saute aussi. Enfin, c'est pas hyper strict, mais oui, on essaie d'avoir un rythme quand même.
Après, c'est selon comment ça nous correspond. Moi, je sais que j'aime bien prier le matin. Je sais que la majorité des matins, je vais prier.
Ouais.
Voilà. Et après, je vais prier, par exemple, si je veux faire un truc important ou si je veux faire une activité particulière, j'aime bien faire une petite prière avant. Mais c'est pas longtemps, hein. C'est une petite prière spontanée comme ça, les prières flèches, comme on les appelle.
Ouais.
J'avais vu qu'on les appelait comme ça.
Ouais. Il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans. Comment. C'est ce qui. La prière, c'est aussi quelque chose qui appartient à toute une communauté d'hommes et de femmes, et un peu partout sur la planète finalement. Est-ce que c'est une manière d'être en lien avec cette immensité ?
Oui, tout à fait.
Ouais, l'humanité. On appelle ça la communion. Ouais. Communion entre ceux qui croient la même chose, qui espèrent la même chose.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc de... finalement, quand on prie, pareil, on n'est pas tout seul. Bon, déjà, on croit qu'on est avec Dieu. Voilà, ça peut paraître un peu fou, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on croit.
Ouais, oui.
Et en plus, on est avec tous ceux qui prient. Et c'est pour ça que quand on est... Enfin, nous, du coup, on s'inscrit dans la branche catholique. Et en fait, par plein de petits trucs, on essaye de... Moi, par exemple, je prie avec le missel le matin. Le missel, c'est la liturgie de la messe. C'est-à-dire qu'il y a la messe le dimanche, mais il y a aussi la messe tous les autres jours. Et en fait, chaque jour a son texte d'évangile réservé pour ce jour-là. Et moi, j'essaye de prier avec, justement, dans cette idée de communion. C'est-à-dire que je sais que, du coup, quand je vais prier avec ce texte-là, y a plein de chrétiens qui vont prier avec moi ce même texte. Voilà. Donc il y a cette idée d'être ensemble dans quelque chose qui est...
Une histoire de communauté.
Ouais, ouais.
Et ça donne de la force.
Oui.
finalement, oui. Dieu, c'est qui
C'est la Trinité. C'est trois personnes en une. Donc déjà, là, c'est un peu bizarre, mais on ne peut pas trop dire Dieu facilement, de toute façon, mais c'est... Nous, on ne trouve pas de meilleure façon nous de le dire que trois personnes en une. Après, on ne peut pas trop les nommer non plus, mais une des manières qu'on... C'est Père, Fils, Saint-Esprit. Mmh. Donc, en gros, quelqu'un, la reconnaissance qu'il a de lui-même et l'amour des deux. Grosso modo, c'est une relation. C'est ça qui est très important pour nous. Voilà, ce n'est pas un Dieu, je ne sais pas, qui serait que seulement une énergie ou... Enfin, c'est quelqu'un, quoi. Voilà, c'est un quelqu'un. Et avec qui on entre en relation, c'est donc forcément aussi Jésus qui est venu et qui s'est révélé, qui s'est fait connaître, voilà.
Bon, je... ouais. Non mais c'est chouette, ça nous précise un peu parce que on connaît pas très bien. Mm-hmm. Vincent, est-ce que tu pries toi ?
Écoutez, oui, ça doit bien m'arriver effectivement. Alors j'ai peut-être pas de prières qui sont partagées par toute une communauté, mais je dois bien en avoir. Bon, et sans doute que oui. Et finalement oui.
Moi ouais. aussi, moi je prie, moi. Oui. Moi je prie, mais c'est pas rythmé, mais c'est en général à chaque fois que je dois bosser. Mm-hmm. C'est
ouais,
mais
aussi.
À chaque fois que je dois bosser, oui. j'ai ma petite prière avant de bosser, en fait. Quoi.
Et ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est super ça. Mais il y a beaucoup de gens qui prient sans le savoir.
Hein. Je ne suis pas spécialement de foi catholique, de confession catholique.
Oui,
hein.
Oui. Mm-hmm.
Mais c'est. Ouais, je trouve ça bien. Ça met un petit peu de. Ça met dans une énergie en tout cas positive.
Ouais. Mm-hmm. Bah ouais. Bah, de toute façon, il y a pas mal l'idée que même si on n'est pas de foi catholique ou de foi chrétienne, en soi, si Dieu nous a tous fait de la même manière. Enfin, c'est pas qu'il nous a fait de la même manière, on est tous des individus différents, mais. Il y a le fait qu'on a des besoins d'humains et la prière est un besoin. Enfin, l'âme a besoin de prier. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on croit un peu. Mmh. Et ça, même pour les gens qui ne sont pas de foi catholique, enfin, c'est pas pour rien qu'il y a plein de spiritualité, que les gens cherchent ça, quoi.
Oui, il y a une notion presque thérapeutique.
Comment ?
Il y a une notion presque thérapeutique.
Oui, bah, dans notre...
Quand tu parles de soigner l'âme...
Oui, bah, dans notre foi, Dieu, il est venu pour nous aider, pour nous guérir. Hein. Enfin, pour nous soutenir, pour... Et pour nous sauver, ouais. Donc il y a ce côté guérison, il y a ce côté réconciliation. C'est ce qu'on retrouve dans les sacrements de réconciliation, ce qu'on appelait la confession avant, qu'on peut toujours appeler confession, mais il y a cette idée de... Ouais, il y a cette idée de guérison, de soin, un peu, quand même, aussi dans cette religion.
Ok.
Mais pardon, mais vous pensez que nous tous, humains, nous avons besoin d'être sauvés, et alors sauvés de quoi ?
Oui, et sauver de quoi ? Eh bien, du mal. Ce qu'on appelle aussi chez les catholiques du péché, mais bon, c'est un mot qui est aujourd'hui, je crois, assez mal compris. Donc, du mal, je pense qu'on constate tous le mal chez les autres et chez nous, dans le monde en général. Et je pense qu'on a tous besoin d'être sauvés de ça, oui. Mais je crois qu'il nous dépasse de loin.
Ouais. Et vous restez dans l'espérance qu'on puisse être sauvé du mal ?
Oui, pour nous, c'est sûr. Enfin, c'est là vraiment toute notre foi, oui. C'est que l'amour vaincra, en définitive.
Et pour tout le monde, pas que pour les catholiques.
Ouais.
On y croit vraiment pour tous, c'est pas du tout quelque chose...
Ouais.
Voilà, on croit pas...
C'est quelque chose de très humain, tout
ouais.
simplement, quoi.
Oui, oui.
Tout à fait.
Bon, et si on faisait une petite pause musicale, Ismo, toi qui as la... La...
Tu voudrais faire une pause musicale ?
Non, c'est pas le moment. L'art de proposer des musiques qui font aussi du bien, parce que ça nous accompagne, ça, la musique.
Mais oui. Eh bien, écoute, ouais. Très bien. Il s'avère que j'ai un petit Walkman, là, avec une petite enceinte Bluetooth, quoi.
Ouais.
Donc, on va pouvoir s'écouter.
Ça vous dit ?
Ah ouais, carrément.
Un petit peu de musique, on voit.
J'aime bien écouter de la musique dans le train.
Je vous propose un morceau du duo jamaïcain Kiss and Tex, qui s'appelle Stop That Train, qui est sorti en 1968.
Yes.
Allez.
Yeah.
Stop That Train. Merci, Kiss and Tex. Eh bien, on est toujours dans notre train, dans embarquement immédiat, avec nos deux voyageurs, Quentin et Célia, qui nous ont déjà proposé deux objets qui nous ont fait partir dans la discussion. On a abordé pas mal de choses jusqu'à présent. C'est chouette, hein. Et là, je vois un objet qui pointe son nez. Alors, je ne sais pas si c'est l'objet que vous avez prévu de sortir.
Pourquoi pas ?
Je vois un livre.
Ouais, carrément. Un livre, ouais.
C'est vrai que moi, quand je voyage, je prends souvent un livre. Que je le lise ou que je le lise pas, c'est autre chose, hein. Mais il y a toujours un livre qui m'accompagne.
Ouais. Ça aussi, ça rassure un peu, d'avoir un livre.
Ouais, moi, il y a plein de moments où je lis. J'ai beaucoup de mal à lire dans le train, en vérité. Je prends souvent un livre dans l'idée que je vais le lire, mais en fait, je me fais souvent happer par mes pensées et par le paysage. Enfin, voilà, je fais partie de ce genre de personne qui a le livre posé sur... Oui. Sur la table et qui ne le lit pas.
Je me reconnais un peu dans ce que tu décris.
Ah, et moi, je le lis, au contraire.
Ouais,
ah,
toi, oui. Tu le lis, ouais.
Ouais. Ouais. T'arrives à te plonger dans la lecture.
Ah bah, carrément, ouais. Dans le train surtout.
Ouais.
Mmh. Ah ouais, c'est fou, moi ça me bloque complètement. Je suis complètement happée par l'ambiance. Par l'ambiance du train.
Il y a tout le monde à observer, tout ce qui se défile, les gens, le paysage. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, Maman du monde.
Et oui, du coup, c'est un
titre de ton livre là.
Ouais. Bah, du coup, ouais, Maman du monde, c'est un livre qu'une maman m'a prêté. Quand elle a une petite fille et du coup moi j'étais enceinte, elle est venue me parler, enfin forcément c'est un sujet qui nous concernait tous les deux et en fait c'est un livre qui lui tenait pas mal à cœur et du coup elle a voulu me le transmettre en fait. Du coup là c'est un peu y avait le chapelet un peu pour la transmission verticale de génération et puis là c'est un peu la transmission horizontale quoi d'une personne qui voulait me partager un peu ce qui comptait pour elle dans cette la manière dont elle a vécu la maternité. Et en fait, donc, c'est un livre où, en gros, donc, c'est que des mamans qui vivent... ça raconte l'histoire de mamans qui vivent en France, mais qui sont toutes originaires d'ailleurs. Et du coup, elles expliquent un peu comment ça se passe dans leur pays, que ce soit au niveau de la grossesse, de l'accouchement, de l'éducation. Et en fait, elle, ça lui avait beaucoup parlé. Elle m'en a pas trop parlé. Elle m'a pas dit comment ça lui avait parlé, mais en tout cas, elle m'avait dit que c'était un... quelque chose d'important pour elle. Et en fait, moi-même, en le lisant, ça m'a fait beaucoup de bien de lire comment les femmes faisaient ailleurs, comment ça se passait, et en fait, de se rendre compte. Parce qu'en France, en Europe, on a une manière un peu très, très cadrée de faire les choses. Et en fait, ça fait beaucoup relativiser de lire ça, de voir comment peut être fait très différemment ailleurs. Et comment, en fait, ça se passe. Enfin, il n'y a pas vraiment, je pense, de manière de rater...
Ou de réussir la
maternité. Et du coup, ouais, c'était assez inspirant. On peut, comme ça, il y a des choses que j'ai vues qui me parlaient moins, des choses qui me parlaient beaucoup, des choses qui se retrouvent dans pas mal de cultures, des choses moins. Et ça permet d'être peut-être un peu plus libre aussi dans la manière dont on a envie de faire les choses, de pas se bloquer, de se dire, ouais, il faut faire ça de telle manière et tout. Et voilà.
J'imagine que c'est... un sujet entre vous bien sûr qui est quotidien et bien sûr que quand vous serez parent, enfin vous l'êtes sans doute déjà d'ailleurs, non?
Oui, je pense.
Oui.
Ouais. Ouais, quand même. Il est déjà très présent. Enfin, moi déjà, il a pas mal changé la manière dont j'avais de... mon rapport à mon corps, mon rapport au monde, mon rapport à... Je marche vachement plus lentement, il y a des choses que c'est plus pénible de me baisser. Enfin, déjà, il a sa présence en moi. Enfin, je parle des contraintes, il a d'autres présences. Déjà, je le sens bouger et tout, donc... il est quand même là, quoi.
Je pense pas qu'on le soit déjà, mais presque, quoi. C'est-à-dire qu'on se transforme déjà en vue de devenir, je pense, plutôt. Donc, on chemine vers cette destination.
Voilà. Et alors, peut-être que l'un et l'autre, du coup, vous cheminez ensemble, mais vous avez peut-être aussi des manières un peu différentes de vous projeter, de vivre le moment présent, mais aussi de vous projeter. Alors, comment tu le vis en tant que papa? Est-ce que tu as d'ailleurs pris un peu de temps pour lire ce livre, Maman du monde?
Non. J'ai feuilleté comme ça, un petit peu. Mais sinon, c'est surtout Célia aussi qui m'en a parlé et qui je l'ai écouté, je l'ai un peu lu à travers son témoignage à elle, comment elle me l'a raconté. Voilà, et comme moi je le viens en tant que papa, je crois que je me pose pas trop la question. Je me suis quand même posé la question de qu'est-ce que c'est qu'être père, notamment avec les ce qui est semblable avec la mère, qu'est-ce qu'être parent en général, mais aussi qu'est-ce qu'être père, et qu'est-ce qui est différent de la mère. Voilà. Mmh. On croit pas mal aussi en l'altérité homme-femme, et donc qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je vais apporter à ce foyer. Mmh. Voilà. Bon, après, je pourrais rentrer dans les détails, je sais pas, mais en tout cas, un peu.
Mais pourquoi pas, en fait. Comment, de ton point de vue, aujourd'hui, tous les cas, en tant qu'homme, et bien sûr, futur papa, tu t'imagines, tu te rêves, et tu penses un peu à cette place que tu vas avoir auprès de cet enfant?
Eh bien, moi, j'ai l'impression... Alors, on a pris la décision, Célia, elle veut allaiter. Et de ce fait-là, et puis pour d'autres raisons, que la mère sera peut-être plus proche des enfants que moi, dans une relation plus fusionnelle, plus intime, plus voilà. Et moi, je serai celui... donc elle va rester à la maison. Ça ne veut pas dire qu'elle restera que à la maison, mais elle n'aura pas de travail dans le... Et moi, j'aurai un pied dans le monde, entre guillemets. Et donc, je serai plutôt à la périphérie de la famille, du noyau familial, et elle sera plus au cœur. Et donc moi, je ferai le lien avec le monde. Et je serai aussi celui qui a le rapport avec l'enfant, un peu moins... comment dire ?
Fusionnel ?
Ouais, donc moins fusionnel et qui le pousse à sortir, quoi. Elle, c'est le cocon plus, et moi, ça va être poussé à sortir. Je sais pas trop comment expliquer, mais bah, j'aurai pas la même position.
Célia, toi, tu rejoins ce qu'il te dit ? Ça te touche, ce qu'il te...
Oui,
compagnon te dit,
oui,
là ?
Oui, tout à fait. De toute façon, on s'est mis assez d'accord. Enfin, en fait, on s'est très vite compris, on a été assez vite d'accord sur les rôles qu'on avait envie d'avoir, qui sont des rôles, plutôt classiques. Enfin... Alors, pas classique aujourd'hui, parce que bon, y a, ça bouge beaucoup dans les foyers, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, mais c'est vrai que nous, du coup, on a choisi de faire les choses de manière un peu plus, moi rester à la maison avec l'enfant, et lui plutôt travailler. Mais après, moi, j'ai plein de projets de mon côté aussi, des projets d'écriture, j'ai envie de faire pas mal de choses, et pas forcément dans le milieu du travail, mais c'est vrai que moi, ma priorité, ça va être plutôt... mon temps, il va être dédié à l'enfant en premier, et lui, ça va être plutôt au travail. Voilà, on a décidé de faire les choses comme ça. Et je me reconnais assez... On s'est mis d'accord. On a beaucoup discuté, on s'est mis assez vite d'accord là-dessus. Ça nous parlait, C'est vrai que moi, j'ai tendance à voir les choses plutôt comme ça aussi. Je vais passer beaucoup de temps avec cet enfant, je vais le nourrir, il va être très proche de moi. Et je vois effectivement aussi le père comme celui qui... Ouais, qui donne un peu la soif de sortir, la soif d'aventure, la soif de faire d'autres activités. Enfin, il va faire des choses avec moi, évidemment. C'est pas, moi, je vais pas juste. C'est pas si tranché comme posture, mais il y a un côté où moi je vais lui apporter une plus grande sécurité affective, je pense, et certainement que Quentin, aussi. Mais ouais, c'est dur à dire ce rôle. Il est dur à dire ce rôle de. De sortie, quoi, le fait de donner... Ouais.
Bousculer un peu.
Ouais, voilà. C'est un peu, on s'était un peu dit que, que finalement, le rôle du père, c'était un peu aussi de couper un peu avec la mère, de couper un peu la fusion avec, avec la mère. Enfin, en tout cas, que ça... Que c'était un peu ce rôle-là aussi. Ouais.
Et est-ce que cet avenir-là, qui est le vôtre d'être parent, vous inspire des choses que vous aimeriez peut-être faire, à la fois pour vous, pour chacun, mais aussi pour le foyer ? Est-ce que ça donne lieu à des envies que peut-être vous n'aviez, pour l'instant, jusque-là, pas encore fait surgir ?
Ben ouais, moi, carrément... J'écris des chansons depuis un certain temps. J'étais venu faire une interview ici il y a 2 ans, je crois. Mmh. Et jusqu'ici, je ne m'étais jamais vraiment lancé dans le sens je vais essayer de devenir professionnel, enregistrer des trucs. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Et c'est la parentalité un peu qui m'a, je pense, carrément même. Mmh. Voilà, parce que j'ai un foyer. Il y a aussi l'idée que du coup, c'est moi qui vais essayer de ramener des sous. Et donc ça me fait me dire, ok, il faut y aller maintenant, il faut faire quelque chose. J'ai hésité à faire un autre métier totalement pas en rapport. Et là, ça m'a décidé, allez, je vais essayer de faire intermittent, je vais enregistrer un album, donc tout est en cours.
Ça motive tes projets, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est chouette.
Ouais.
C'est chouette.
Ouais, je prends ça, c'est bien.
C'est presque aussi de la transmission, quelque part, quoi. En tout cas, de la transmission d'énergie.
Tout à fait, exactement, ouais. C'est comme si déjà le petit qui n'était pas là m'avait déjà influencé, m'avait déjà... On est déjà en lien.
Ah, puis c'est marrant parce que du coup, de la même manière, moi, du coup, j'étais beaucoup, j'ai cherché beaucoup un espace pour pouvoir écrire, écrire des histoires. Là, en ce moment, j'écris des contes. Enfin, j'ai eu beaucoup cette envie d'écrire et qui était un peu tiraillée par justement par le fait d'avoir un travail, ce genre de choses. Enfin, je me suis beaucoup posé la question par rapport à ça. Et là, moi, le fait de passer du temps à la maison et de m'occuper de cet enfant, bah, du coup, ça m'aide un peu à me projeter, à me dire, bah voilà, ces projets d'écriture, je vais les faire, je vais dédier du temps à ça en même temps que je vais dédier du temps à cet enfant. Ça fait un peu un parallèle pour moi aussi de cette même. Enfin, du coup, dans tous les cas, ça nous permet de nous projeter dans tous les deux ce qu'on a vraiment envie de faire, en fait. Ça nous ramène un peu à nous par rapport à ça.
Tout en cohérence, quoi.
Ouais.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour votre confort, un espace de restauration est à votre disposition dans la voiture numéro 14 au centre de ce TGV.
Ça vous dit d'aller prendre un petit café?
Ouais, c'est pas loin d'une autre, Dragon, je crois.
Ouais. Allez, ou un petit café ou autre chose. Je crois que c'est par là. C'est bien ici, non? Tu crois?
On a bien pris la valise, hein?
Oui.
Ouais, c'est ça,
oui,
je pense. Bien sûr.
On s'assoit là?
Ouais,
ça vous va?
Nickel.
Qu'est-ce que vous avez envie de quelque chose? Un petit.
Allez, café.
Un petit café?
Allez.
Un petit. Non?
Ouais, moi un verre d'eau, ça
un
va.
Un verre d'eau? Bon. Je vais aller voir.
Ouais.
Je te laisse, Ismo.
Bah, ok.
Je vais chercher le café.
Alors quand on est dans la voiture bar, ce qu'on aime bien demander avec nos invités passagers, c'est un petit peu leur vision sur ce qu'on vit actuellement, en fait, non seulement dans notre pays, mais sur la planète. Cette histoire de dingue, matérialisée entre guillemets par la pandémie, mais qui a complètement modifié en fait les habitudes de tout un chacun. Ça va pour vous? Vous n'êtes pas trop affecté?
Je te pose le café ici.
Merci.
Tiens, le verre d'eau.
Merci.
Ismo.
Est-ce qu'on est affecté? Merci. Oui, on est affecté, c'est sûr. Pas trop? Non, je crois pas. Je crois pas.
Oui, non.
Non, ça va. Enfin, c'est pas pire, quoi. Enfin, c'est. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux.
Quel regard vous avez, vous sur cette période-là que l'on vit maintenant, après ces confinements successifs, cette pandémie aujourd'hui, le pass sanitaire, les masques
Oui, c'est voilà. Fou, hein. C'est fou, moi je trouve ça fou. Je suis un peu, un peu dépassé, je sais même plus quoi en penser, quoi. Enfin, je me sens impuissant, évidemment. Ça m'a l'air tellement énorme, c'est tellement des gens qui prennent des décisions tellement loin de moi. Donc ça m'a l'air à la fois très loin et en même temps ça m'embête. Et nous on n'a pas été vaccinés, hein. Justement, tant que ça ne nous touche pas et qu'on n'a pas besoin de le faire, voilà. On se pose. Du coup, moi personnellement, je me pose pas trop la question. C'est que ça commence à poser des problèmes avec les rendez-vous, échographie, etc. Ils nous ont laissé passer. Mais voilà, sinon on n'aurait pas pu.
Ah, ils vous demandent.
Ouais.
Ah ouais.
Pour
faire
une échographie.
C'est problématique, ça.
Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je me suis posé la question, est-ce que je vais le faire ou pas? Finalement, non. Et puis on laisse couler, on voit si on peut survivre comme ça. Pour le moment, ça va. C'est pas trop pénalisant, hein, en vrai. On n'a pas.
Ouais. Ah ouais.
En fait, le fait de le vivre à 10, c'est quand même. Enfin, bon, je pense que c'est quand même plus tranquille ici que, je sais pas, dans une grande ville où. Enfin, j'imagine que. Moi, en fait, depuis qu'il y a l'obligation de se faire vacciner et tout, j'ai pas eu d'occasion tant que ça de devoir montrer un pass sanitaire et tout. Donc, c'est vrai que, en fait, j'ai un peu l'impression de passer un peu entre les mailles de filet de ce truc-là, de par l'endroit où on vit.
Ouais, donc, à 10, on est peut-être un peu préservé, en fait.
Ouais, moi, je me sens pas mal préservé de ce truc-là. Enfin, même là, en soi, à l'hôpital, on a quand même réussi à passer et tout. À chaque fois, il y a toujours.
Ouais, et puis du fait qu'on n'a pas de métier, là, moi pour le moment j'ai pas de métier.
Oui, il y a ça aussi.
Ouais, ça fait que. Ouais, j'ai pas eu à me poser la question de est-ce que pour mon métier, etc. Je sais que j'ai un cousin, il prend le risque, lui, de perdre son métier parce qu'il veut pas se faire vacciner. Donc voilà, j'ai pas eu à ce genre de choix à faire, etc.
Ouais.
On n'est pas entré dans les complications du problème, quoi. On est quand même assez en marche, je pense. Épargné.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a une oui, que ce soit dans la géographie géographie ou dans ce qu'on fait dans la vie, on est quand même pas mal en marge, donc en fait on est quand même pas mal épargné. Après moi sur le coup au tout début que ça arrivait tout ça, le masque, les confinements, par la suite le vaccin, j'étais pas mal, ça m'a pas mal fait peur, j'avais un peu un mélange de peur et d'indignation. Et en fait, plus ça va, plus je vis ça avec beaucoup plus de douceur. Enfin, je sais pas, je relativise beaucoup. Non pas sur les aspects injustes que ça peut générer. Mais en fait, je crois que toute période, en fait, a ses moments difficiles. Et ça... Voilà, là-dessus, je me tranquillise beaucoup. Enfin, je sais pas comment dire, il y a... Enfin, en fait, c'est jamais rose de vivre sur cette terre, en fait, quoi qu'il se passe, et que ce soit une question politique, que ce soit une question de pandémie, de guerre, en fait, ça a toujours été... Il y a un peu une continuité aussi de la vie sur cette terre, quoi. Enfin, je veux dire, chaque période a ses difficultés. Et c'est vrai que moi, je suis un peu dans cette optique... Je crois, du coup, de par notre croyance, il y a aussi un côté, on croit beaucoup que... c'est l'amour qui est un peu la toile de fond de ce monde-là aussi, et en fait j'ai l'impression de voir de plus en plus ça aussi, et voilà, je sais pas, j'ai un regard beaucoup plus apaisé, plus
est-ce que cette période, avec tout ce que ça nous amène à vivre, sert de votre point de vue à quelque chose? Est-ce que ça pourra nous servir?
Oui, moi je pense que toute souffrance sert à quelque chose. Donc à partir de là.
Ok.
Il y a un enseignement à tirer en.
Oui, toujours. Fait, toujours, ouais. Même si c'est pas forcément toujours le moment de l'entendre. Évidemment. Mais je pense. Et donc, bien que ce soit. Ouais. Bah, ouais. Bah, oui, puis il y a des choses à apprendre. Et que, ça a appris à beaucoup de gens, je pense, à se retrouver tout seul.
Exact.
Pour certains, ce fut, je pense, très difficile. On a entendu des échos de. J'ai ma sœur aussi qui est prof, des élèves qui ont été très désespérés apparemment. Mais voilà, ça m'efface aussi à soi-même, il y a plein de choses.
Bon, alors, est-ce que vous pourriez maintenant partager avec nous l'objet qui est dans votre valise, là, qui vous accompagne encore, et que vous pourriez nous décrire?
Oui. C'est la Bible de Jérusalem.
La Bible de
Encore
Jérusalem.
Un truc.
Alors, est-ce que, alors comment, est-ce que tu peux me le décrire? Là, c'est donc la Bible qui est à l'intérieur d'une.
Alors oui, il y a une petite pochette entre guillemets, de la même texture que la couverture, avec des petits bouts de scotch parce que c'est vieux.
Elle est ancienne aussi.
C'est ça. Elle vient de Jérusalem. Mm-hmm. C'est un ami qui me l'a donnée. Voilà.
Ce qui n'est pas le cas de toutes les Bibles de Jérusalem, c'est une traduction.
Le livre est petit.
Le livre est tout petit.
Il doit faire une vingtaine de centimètres de longueur sur une dizaine de largeur, peut-être.
Ouais, quelque chose comme ça.
Mais... Ça se tient dans la poche.
Et ça doit être écrit...
C'est même plus petit que ça.
Petit, ça doit être écrit petit à l'intérieur.
C'est tout petit, voilà.
Il faut des
lunettes.
Et
il y a toute la Bible de Jérusalem avec les notes. Voilà.
Et c'est quoi la différence entre la Bible de Jérusalem et une autre Bible qu'on n'appellerait pas forcément la Bible de Jérusalem?
Eh bien, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'histoire de communion. C'est la Bible de référence pour les catholiques. Donc, c'est la Bible utilisée par les à peu près 1 milliard de catholiques dans le monde.
Après, il y a d'autres Bibles. Enfin, c'est une traduction. Il y a d'autres Bibles qui sont utilisées par les catholiques. Enfin, voilà. C'est en fait la Bible de Jérusalem, c'est une traduction particulière.
C'est la référence, j'ai l'impression.
Oui, c'est une. Voilà. C'est une référence.
On peut en utiliser d'autres, mais
c'est
là
une grande
qu'on se réfère.
Référence.
Ouais, voilà.
Ok. Alors, du coup, cette Bible de Jérusalem. Vous l'avez lue dans son intégralité, j'imagine.
Moi, non.
Pas encore.
Pas fini, non.
Pas encore, ouais.
Et moi non plus, non, pas du tout. Voilà.
Ouais, pas
non,
de moitié, je pense.
Loin de là.
D'accord.
De là.
Parce que donc, du coup, c'est un ouvrage que vous prenez le temps de le lire, et qui, j'imagine, n'est pas toujours facile d'accès.
Oh là là, oui, vous imaginez bien.
Ouais.
Parfois, c'est... Ouais, non, c'est pas facile d'accès du tout.
Ouais.
Moi, la question que je me pose, c'est lorsque vous lisez ce livre... Est-ce que vous le lisez à la suite en partant du début, ou est-ce que vous l'ouvrez peut-être un peu n'importe où et vous lisez ce qui arrive à ce moment-là?
Bah, moi, j'ai fait plutôt dans l'ordre. Bah, j'ai commencé par le Nouveau Testament quand même. Donc il y a l'Ancien et le Nouveau. J'ai commencé par le Nouveau. Mais après, donc, après dans l'ordre, le récit de Matthieu ou le récit d'un tel. Mais sinon, dans l'ordre, j'aime bien moi. J'ai pris la Genèse avec le début et tout ça. Que la lumière soit, etc. Puis après, les pérégrinations des personnages au fil des ans, c'est chronologique.
Ah oui.
Voilà, j'ai sauté quelques chapitres qui sont, par exemple, les Nombres ou le Deutéronome, qui sont juste des lois.
Ah, du dogme, peut-être.
Ouais, exactement. Ouais. Dogme juif, c'était les lois, les lois, les lois. Et donc là, bon, faut avoir envie de se prendre comme si on lisait le code pénal, quoi. Enfin,
ah ouais.
Mais j'aime bien lire les histoires, par contre, dans l'ordre chronologique, ça, j'aime bien. Ouais. Les prophètes, des choses comme ça.
Ouais, parce que c'est chronologique, du coup, c'est vrai que ça y a un côté.
Mmh. Ouais, c'est comme des contes un peu.
Voilà, donc des histoires qui vous permettent peut-être de comprendre d'une certaine manière la vie, le monde.
En fait, ça permet surtout. Bah, du coup, il y a deux parties qui sont quand même assez distinctes. Il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Et donc, l'Ancien Testament, donc, qui est par ordre. Et du coup, c'est déjà pas la même histoire avant. Donc l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple juif. Et moi, la manière dont je le dirais un peu, c'est que l'Ancien Testament, enfin l'histoire entre Dieu et ce peuple juif, c'est pour moi, elle exprime la pédagogie de Dieu. C'est-à-dire, c'est avec ce peuple que Dieu montre qui il est et comment il fonctionne. Et par toute cette petite histoire, en fait, on voit... Selon comment il réagit, selon comment les hommes réagissent, en fait, on voit une relation qui se dessine entre les hommes et Dieu. Et là où je pense qu'il y a pas mal de confusion, c'est qu'il y a des gens qui prennent des réactions de l'Ancien Testament un peu pour des dogmes, alors que pas du tout. C'est vraiment, c'est vraiment un apprentissage de comment Dieu nous aime, en fait. Et le fait est que bah, à cette époque, les gens, des fois, ils étaient quand même, ils avaient des réactions très, très, très violentes, très étonnantes. Et ça choque pas mal de gens. Mais en fait, justement, je crois que Dieu, il a un peu envie de sortir de ça. Et en fait, le message de l'évangile, quand Jésus arrive, c'est un message qui est vraiment très, très, très tendre, vraiment plein d'amour avec l'humain. Et voilà. Et juste avant, c'est toute la longue pédagogie où les hommes sortent un peu de cette volonté de force, de puissance, voilà. Parce que le Dieu qui est présenté, le Dieu chrétien, il est quand même assez, il se présente dans une grande faiblesse, en fait. Il se donne à l'humanité par amour. Il a vraiment un peu comme une relation d'un parent à un enfant, en fait. C'est-à-dire que le parent, il se débrouille très bien sans son enfant, mais en fait, il aime tellement son enfant qu'il est dépendant de lui. Il a envie de s'en occuper, il a envie de l'aider, il a envie de le voir grandir, il a envie de le voir. Voilà, il l'aime, en fait. Du coup, c'est un peu cette relation-là qui cherche à s'exprimer.
Ah, c'est classe.
Il a envie de le voir s'épanouir, grandir, pour devenir quelqu'un. De bon.
Debout.
Ouais.
Debout.
De beau.
Debout.
Ouais, debout.
Debout, ouais. Ouais, ouais. En toute intégrité, en toute liberté. Ouais.
Ça.
Je sens que le train s'arrête.
Qu'est-ce qui s'est passé, là, Ismo?
Je sais pas, on est arrêté au milieu de nulle part là. C'est un peu bizarre. Hein.
Madame, monsieur, votre attention s'il vous plaît. Suite au problème sur notre TGV, le mécanicien qui devait reprendre notre TGV est absent. Donc nous sommes en recherche de personnel pour conduire notre train. Nous reviendrons vers vous pour d'autres informations quant à la suite de notre voyage. Voilà, merci de votre compréhension.
Bon, alors.
Ça, c'est ballot, ça, en fait.
C'est ballot, oui.
Compréhension.
Bon, on peut bien comprendre. Et puis ce qui pourrait être chouette, du coup, enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
On est coincé au milieu de nulle part.
Ismo.
Viens, on va.
Si on leur proposait de rejoindre
la locomotive
de tête.
Allez.
Ah, on prend le contrôle.
Ouais, j'ai jamais fait.
On va voir si on y arrive.
Ah, on va voir.
Ouais, on y va. Allez.
Je crois que c'est pas trop loin, en fait, quoi.
Ah, c'est par là. C'est un peu plus loin. Vous avez pris la valise. Ismo, c'est bon, t'as...
Ah ouais, j'ai tout, ouais, j'ai mes clés, j'ai...
T'as mis ta casquette. Ah, bah écoutez...
Il y a plein de boutons de partout.
Me voilà.
Attends, qu'est-ce qui se passe si j'appuie là? Ah ouais, tu vois. Ah ouais, bah trop bien.
Ça c'est le klaxon.
Bon bah voilà.
Alors, ben...
Où est-ce qu'on va?
Où est-ce qu'on irait si on redémarre la locomotive, et où est-ce qu'on va? On va avec vous en tous les cas.
Vous venez avec nous?
Ouais.
Ben on va vers la parentalité.
Allez, bon.
Excellent.
C'est ça.
T'es déjà allé là-bas, Vincent?
Bah non.
Non,
toi...
Moi j'y suis allé, c'est super.
Toi t'es déjà allé.
Ah ouais. C'est super.
Ouais.
Ah ouais, moi je suis trop content qu'on aille là-bas.
Ouais. Et ben moi ça me permettra peut-être de le vivre un peu. Alors on y va?
Allons-y.
Super, vers la parentalité.
Ben, c'est parti pour la parentalité. Merci beaucoup de nous emmener dans cette destination qui était inconnue jusqu'à présent. On était ravis de vous accueillir.
Ouais, merci à vous deux.
Ben, merci à vous.
Bon, et puis, ben, vous allez repartir avec cette valise que vous allez à votre tour transmettre à quelqu'un de votre choix.
Ouais.
Et puis, ben, cette personne-là, on la recevra notre prochain voyage, n'est-ce pas, Ismo?
Qui nous emmènera dans sa destination de prédilection.
Ouais.
C'est parti?
Oui.
Vers la parentalité.
Et bien voilà les amis, c'était
Embarquement immédiat,
une émission imaginée, réalisée par
Vincent et par Ismo.
Voilà, et puis ben, on se retrouve tout bientôt sur les ondes de Erdiwa.
Et naturellement, vous pouvez retrouver cette émission sur le podcast éternel au www.rdwa.fr. Bonne route à toutes et à tous.
Salut. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Jubilee Hill in Harlem. You take your baby to Harlem, you're bound to find the hole up on Sugar Hill, where everyone's having a solid ball. You board that A train and then you ride till you dig this number 145 Street, where all the cats meet, posing on the stroll. Pops are really in there. Ba-da-loo, da-da, ba-da-loo, hey. That's the riff that the bands all play. It's groovy, the hep cats say. Then you know that you're in Harlem. You got to get on that A train and you will get a thrill. Yeah, if you're looking for a rhythm, you'll find it on Sugar Hill. Now that you know just how to get up that beat up a nickel and you got your fare. If you want to go to happy Harlem, you take the A train that goes uptown and ride, ride, ride. Wait until you get on Sugar Hill. You jump for joy till you get your fill. Have you got your nickel in your hand? Then hurry, don't you miss that train, oh man. You, yes, you must take the A train. That A train, that A train. You make it on time. Go to Sugar Hill way up in Harlem. Harlem. Better hurry. Hurry, get up on.